RCF.
L'école des femmes, le malade imaginaire, Tartuffe ou Don Juan, autant d'œuvres mises en scène des centaines de fois et étudiées par des millions de collégiens ou de lycéens. Ces œuvres incontournables, nous les devons à Molière, bien sûr, monument de la littérature française. Georges Forestier est un des plus grands spécialistes de Molière. Il est professeur de littérature à Sorbonne Université, où il enseigne l'histoire du théâtre, et plus particulièrement le théâtre du XVIIe siècle. Il a consacré de nombreux ouvrages à Molière, dont une biographie publiée en 2018 et qui a fait date. Georges Forestier y rétablit quelques vérités sur Jean-Baptiste Poquelin, et si le mythe est un peu écorné, le génie, lui, est intact.
Il y a une première biographie qui est apparue en 1705, due à un certain Grimaret, qui prétendait avoir connu Molière, avoir interrogé sa famille, etc., et qui est en fait un tissu d'inventions, d'anecdotes, etc. Mais il se trouve que comme il a été le premier, il a été la matrice de toutes les biographies qui ont suivi, tout le monde l'a recopié. La biographie de Molière par Voltaire, c'est un abrégé de la biographie de Grimaret. Et à partir du 19e siècle, quand on a commencé à enquêter vraiment, que les historiens et professionnels et amateurs se sont lancés à la recherche des actes de naissance, de baptême, de mariage. Il y a même une revue à la fin du 19e siècle qui s'est appelée Le Moliériste, où on faisait état de tout ce qu'on avait découvert. On s'est rendu compte que tout ce qu'avait raconté Grimaret, c'était faux. Et qu'on avait répété de proche en proche, en fonction des biographies, des choses fausses. Mais il restait une sorte de révérence vis-à-vis de Grimaret, parce qu'il est le premier. Le beau livre de Bulgakov, le roman de Monsieur Molière, il est inspiré de Grimaret. Le beau film de Mnouchkine, Molière, est inspiré de Grimaret.
Donc, voudrait dire que tout le travail restait à faire?
Tout le travail restait à faire pour quelqu'un qui aurait le courage, comme je l'ai eu, c'est-à-dire de faire table rase et de repartir des documents de l'époque, des témoignages de l'époque, des gazettes de l'époque, etc. Parce qu'on a beaucoup parlé de Molière au XVIIe siècle.
Pourquoi vous dites courage? Il en fallait pour quelle raison?
Parce que c'est du travail, parce que justement, je vais contre beaucoup d'idées reçues. La maladie de Molière à la fin de sa vie, c'est une maladie qu'il a attrapée dans les derniers mois de sa vie, et non pas une longue tuberculose qu'il a rongée. Parce que, évidemment, au XIXe siècle, on a inventé que tous les génies devaient être tuberculeux et mélancoliques, et donc Molière s'est tombé très bien qu'il soit mort d'une toux plus brutale qu'une autre qui lui a fait rompre une veine dans les poumons et que du coup, voilà. Donc vous voyez, il y a tout un tas de choses qui sont devenues des légendes. Molière misanthrope, Molière jaloux d'une femme qui le trompait, c'est la raison pour laquelle il a écrit le Misanthrope, alors que pas du tout, sa femme qui le trompait s'est apparue des années après la mort de Molière et jusqu'alors tout se passait très bien, apparemment ce fut un ménage uni et heureux. S'il était jaloux, c'est sa thématique qui vient d'une thématique à la mode depuis le début du XVIIe siècle, dans les nouvelles, dans les comédies espagnoles, ils sont bourrés de personnages jaloux, etc. Et Molière, il a commencé à travailler là-dessus, bien avant d'épouser Hermann Béjart, etc. Donc voilà tout ce qu'il y avait à revoir, à reprendre.
Et que vous proposez donc dans cet ouvrage, vous évoquiez les sources il y a un instant, il y en a donc beaucoup, y compris des sources contemporaines?
Oui, parce que on a quelques témoignages, on a surtout des gazetiers, on a des attaques, on a l'inventeur de ce qui va être la grande revue de la fin du siècle, le premier magazine People de la fin du siècle et du XVIIIe siècle qui s'appelle le Mercure Galant, qui va devenir ensuite le Mercure de France. Eh bien, l'auteur du Mercure Galant, qui s'appelait Donaud de Visée, était très proche de Molière, qui a fait semblant de l'attaquer à une époque parce qu'ils ont inventé le buzz ensemble. C'est ça, le buzz date du XVIIe siècle. Là, ils avaient une capacité de publicitaire. Et Molière a su très bien faire tout le temps de se mettre en situation d'être victime pour pouvoir attaquer les autres, justement, se moquer des autres, etc. Et on a un document irremplaçable qu'on appelle vulgairement le registre de Lagrange. Lagrange, c'était le bras droit de Molière, l'un des meilleurs acteurs du Palais Royal avec Molière, qui, vers la dernière partie de sa vie, alors qu'il était encore acteur à la Comédie Française désormais, a eu l'idée de recueillir de tous les registres annuels de la troupe, où on notait les dates, les recettes, les titres des pièces pour chaque représentation, et d'en faire un registre à lui pour le jour où, à la retraite venue, il voudrait écrire une histoire de la troupe et de Molière. On a perdu les trois quarts des registres de théâtre. Par miracle, on en a conservé trois autres. Et ce document qu'il avait fait pour lui, il est passé de descendant en descendant jusqu'à une vieille dame qui, à la fin du XVIIIe siècle, a apporté à la Comédie Française. Et grâce à ça, on sait, depuis la Pâques 1159, puisque les saisons théâtrales à l'époque allaient de Pâques à la mi-carême, pendant les trois dernières semaines avant Pâques, on ne devait pas jouer de théâtre. Et on a donc de saison en saison, à partir de Pâques 1659, tout ce que Molière et sa troupe ont joué. Donc on sait exactement, ça permet de rabattre des idées fausses, que le misanthrope a été un échec à sa création, que le bourgeois et gentilhomme n'a pas été applaudi à Chambord quand il a été créé. Tout ça, c'est faux.
Contez-moi cette histoire.
Extrait de l'École des femmes à la Comédie française avec Michel Aumont et Isabelle Adjani.
Elle est fort étonnante et difficile à croire. J'étais sur le balcon, à travailler au frais, lorsque je vis passer, sous les arbres d'auprès, un jeune homme, bien fait, qui rencontrant ma vue, d'une humble révérence aussitôt me salue. Moi, pour ne point manquer à la civilité, je fis la révérence aussi, de mon côté. Soudain, il me refait une autre révérence. Moi, je refais de même une autre, en diligence, et lui, d'une troisième, aussitôt repartant, d'une troisième aussi, j'y repars à l'instant.
La suite de l'histoire.
On connaît la date de baptême de Molière, ça correspond à sa date de naissance à quelque
probablement, parce qu'il se trouve qu'il est né probablement avant terme, parce qu'on a la date du mariage de ses parents, peu après Pâques. En 1621, il a été baptisé le 15 janvier 22, et c'est-à-dire moins de 9 mois après le mariage. Et comme on ne peut pas supposer qu'à cette époque-là, ils aient consommé avant le mariage, donc il est probable que pour un enfant né avant terme, on l'ait baptisé le jour même. Donc c'est pour ça qu'il est de tradition désormais de dire qu'il est né le 15 janvier 1622.
Et il est issu d'une véritable dynastie, la dynastie des Poquelin.
Voilà, c'est la dynastie des Poquelin, elle-même alliée à une autre dynastie qui est celle des Crécé, puisque le père de Molière, Jean Poquelin, épouse Marie Crécé, il est tapissier, fils de tapissier. Et Marie Crécé, elle est fille et petite-fille et nièce de tapissier. Au XVIIe siècle, c'est comme décorateur aujourd'hui. C'est un des métiers d'artisans les plus huppés, parce qu'ils sont fréquentés par ceux qui peuvent s'acheter des tapisseries, des tissus épais, du rembourrage pour les sièges. Donc c'est la boutique de son père était fréquentée par la haute bourgeoisie et par l'aristocratie.
À Paris donc, bien sûr.
Voilà. Dans le quartier des Halles, en fait, sa maison natale, on peut presque la voir. Elle est au coin de la rue Saint-Honoré et de la rue Sauval. Elle a été détruite au 19e, mais reconstruite exactement sur le même modèle.
C'est un enfant qui bénéficie d'une bonne éducation ?
Comme celle de tous les riches bourgeois commerçants qui envoient leurs enfants, comme tout le monde, aux petites écoles et ensuite au collège. Et apparemment, il a suivi les 4 classes de grammaire, les 2 classes d'humanité, les 2 classes de philosophie. Et ensuite, il semble qu'il soit allé à Orléans pour prendre ses licences de droit. Mais apparemment, c'est là qu'il a abandonné en cours de route. Il n'a jamais obtenu ses licences de droit.
Tout le destiné à prendre la suite des affaires de son père ?
Oui et non, parce que quand on en est à la troisième génération d'une famille en ascension, comme il avait 2 frères, on peut permettre à l'aîné d'acquérir des diplômes supérieurs pour acquérir des charges supérieures qui vont faire monter dans la hiérarchie sociale, cette fois-ci, non pas financière, le fils aîné. Et il semble bien que son père l'a poussé à devenir avocat parce que ça permettait ensuite de monter dans les charges de la maison du roi.
La charge de tapissier du roi, est-ce
que ça signifie ? Alors son père achète au début des années 30 une charge qui est celle de tapissier valet de chambre du roi. Le tapissier valet de chambre du roi, il fait partie de la maison du roi, comme le barbier, l'horloger, le chirurgien. Et sa particularité, c'est de veiller aux tentures, aux meubles et aux lits du roi.
En tout cas, le fait est qu'il s'engage dans des études de droit, qu'il abandonne.
Qu'il abandonne.
Pour quelle raison ? Est-ce qu'on le sait ?
Le bruit courait à la fin des années 50, quand la troupe revient à Paris après quelques années de pérégrination en province, que Molière avait quitté les bancs de Sorbonne par amour pour une comédienne. Alors, c'était pas les bancs de Sorbonne, parce que la Sorbonne, à l'époque, c'était la faculté de théologie. Et cette comédienne s'appelle Madeleine Béjart. Elle fait partie d'une fratrie qui est celle des Béjart, dans laquelle ils vont tous devenir comédiens, en même temps que Molière, au début de 1643. Il est sorti du collège. Probablement le collège de Clermont, on dira après sa mort qu'on va dire que c'est le collège de Clermont, c'est-à-dire aujourd'hui le lycée Louis le Grand. Dans les années 40, il a l'âge de faire des études supérieures dans une faculté de droit ou de médecine ou de théologie, mais il se trouve qu'en fin 42, il abandonne. On a la liste de tous ceux qui ont signé à la réception de leur licence de droit à Orléans. On a par exemple Charles Perrault, mais on n'a pas la signature de Molière, donc il n'est pas allé au bout.
Alors, il hérite de la fonction de son père ?
Non, justement. C'est là qu'on voit que c'est une véritable vocation, le fait de se jeter dans le théâtre. Alors, amour et vocation, les deux ont dû se conjuguer. puisque en janvier 43, il y a un acte notarié qu'on a retrouvé dans lequel Molière renonce à la charge. Donc il récupère une partie de l'héritage de sa mère et il renonce au bénéfice de son frère cadet à la charge de tapissier valet de chambre du roi. Il la reprendra plus tard à la mort de son jeune frère, une fois qu'il sera installé à Paris.
Georges Forestier, vous avez parlé de vocation concernant Molière et l'itinéraire qui le conduit à se donner corps et âme pour le théâtre. Qu'est-ce que vous voulez dire par vocation ?
Parce que c'est exceptionnel. Quelqu'un qui vient de cette bourgeoisie marchande très aisée et qui abandonne des études de droit pour se consacrer corps et âme au théâtre, c'est tout à fait exceptionnel parce que ceux qui viennent du même milieu, ils deviennent avocats ou médecins ou théologien, etc. Et on écrit de la poésie, et le prestige le plus haut de la poésie, c'est la poésie dramatique, comme on disait à l'époque.
Or, lui, il fait un autre choix ?
Il fait un autre choix. Ce qui l'intéresse, c'est de jouer du théâtre, de faire du théâtre. Et donc, il abandonne tout à une époque où le métier de théâtre vient juste d'être réhabilité par Richelieu et Louis XIII, qui publient un arrêté de réhabilitation des comédiens. Mais il faut savoir que dans le droit canon, depuis le Moyen-Âge, les comédiens sont infâmes. Infama, c'est-à-dire ils sont dépourvus de renommée, de toute réputation. Ils ne peuvent même pas témoigner en justice. Les comédiens qui vivent en république, en groupe, sont des êtres qui vivent les uns avec les autres. Les femmes sont partagées entre les uns et les autres. Donc, même si ce n'est pas vrai, ils ont une mauvaise réputation.
Comment réagit la famille ?
On ne sait pas. La légende commence à raconter que son père n'a pas voulu, qu'il a envoyé quelqu'un pour convaincre Molière. Et le résultat des courses, c'est que ce quelqu'un qui a été envoyé devient comédien avec Molière. Et voilà. Quand on voit que dans quelques années, la faillite de la première troupe, que le père a cautionné tous les prêts qu'ils ont faits pour rembourser, etc., etc., on s'aperçoit qu'il a peut-être déploré, regretté, mais probablement pas cherché à empêcher son fils de faire ça. Surtout qu'il fait partie de ce milieu des riches marchands du quartier des Halles, qui sont le public privilégié des deux troupes et des deux salles uniques de Paris, qui sont l'Hôtel de Bourgogne, rue Mauconseil, et l'ancien Tripot du Marais, devenu le Théâtre du Marais, rue Vieille du Temple.
Est-ce qu'on peut imaginer que le premier contact que Molière, Jean-Baptiste Poquelin à l'époque, a eu avec le théâtre, c'est par le biais de ces deux salles ?
Oui, bien sûr. Il a 15 ans quand le Cid explose au Théâtre du Marais en 1637. C'est un triomphe absolu. Il y avait une concurrence acharnée entre le Marais et l'Hôtel de Bourgogne. Il y avait toute une génération d'auteurs qui écrivaient pour le théâtre. Et c'était une période extraordinaire.
À quel moment et dans quelles circonstances l'illustre théâtre voit-il le jour ?
Eh bien, en 1643, donc en janvier 43, Molière renonce à la charge. Et en juin 43, on a l'acte signé chez un notaire. On a l'acte de constitution de l'illustre théâtre. Et donc, on a les noms, on a les signatures, on a la définition, on a même la manière dont Molière fait partie des trois qui choisiront en alternance les premiers rôles. Donc déjà, ça veut dire que il est aussi bon que les meilleurs du petit groupe. On sait que Madeleine Béjart choisira avant les autres femmes les rôles féminins. L'acte de constitution, c'est 43. Il loue un théâtre, une salle de jeu de pommes plus exactement, en septembre 1643.
À Paris toujours.
À Paris. Alors, il faut savoir qu'au XVIIe siècle à Paris, il y a une seule salle qui est dès l'origine un théâtre. C'est le théâtre de l'Hôtel de Bourgogne, qui a été construit par les confrères de la Passion au XVIe siècle pour représenter des mystères et des passions, c'est-à-dire des pièces religieuses. Et puis, comme ça a été interdit par le Parlement de Paris, que c'est passé de mode, il le loue à la troupe des comédiens du roi, qui s'appelle la troupe de l'Hôtel de Bourgogne. Et cette salle, en fait, sur quel modèle elle a été construite ? Non pas sur le plan d'un théâtre à l'italienne, pas du tout. Il se trouve que le théâtre de l'Hôtel de Bourgogne, il fait 34 mètres de long sur 12 mètres de large, c'est-à-dire qu'en fait, il a été construit sur le modèle d'un jeu de pommes. Parce qu'à Paris, au XVIe siècle, il y avait 250 jeux de pommes. Les Français du XVIe siècle étaient extrêmement sportifs. Au XVIIIe siècle, il n'y en a plus que 10, et au XIXe, ils disparaissent. Mais
c'est-à-dire
34 mètres de long, 14 mètres de large, et au bout, on construisait donc une scène. De l'autre côté, on construisait un amphithéâtre derrière des gradins, et des deux côtés, on construisait deux rangs de loges superposées, ce qui veut dire que ça nécessitait les travaux de plusieurs semaines.
C'est de la prose ignorante !
Extrait du téléfilm Le Bourgeois Gentilhomme, réalisé en 1968 par Pierre Badel, avec Michel Serrault, Rosy Vart et Catherine Yegel.
Sais-tu bien comment il faut faire pour dire un « u » ?
Comment ?
Oui, qu'est-ce que tu fais quand tu dis un « u » ?
Quoi ?
Dis un peu « u » pour voir.
Eh bien, « u ».
Qu'est-ce que tu fais ?
Je dis « u ».
Oui, mais quand tu dis « u », qu'est-ce que tu fais ?
Je fais ce que vous me dites.
Oh, l'étrange chose que d'avoir affaire à des bêtes! Tu allonges les lèvres en dehors et approches la mâchoire d'en haut de celle d'en bas. U. Vois-tu? Je fais l'amour. U.
Oui, cela est bien. Voilà qui est admirable.
C'est bien autre chose si vous aviez vu. Oh!
La troupe, qui la compose?
Il y a d'abord le noyau des Béjart. Joseph Béjart, l'aîné. Madeleine, elle a 4 ans de plus que Molière et elle est sa maîtresse à ce moment-là. Geneviève, qui fera toujours les seconds rôles, même un second rôle, ça doit être difficile pour elle, mais elle est dans la troupe. Et puis, un groupe de jeunes gens qui vient avec eux, un ancien maître de philosophie, un ancien libraire, deux jeunes filles qui disparaîtront après, dont on n'aura plus de nouvelles. Il y en a un ou deux après, quand ça va se dissoudre, qu'on retrouvera dans des troupes de campagne, comme on dit, puisqu'il y avait les deux troupes parisiennes, et tout le reste, on appelait ça des troupes de campagne.
C'est à ce moment-là qu'il choisit un pseudonyme?
Oui, parce que pour se hisser au rang de leurs spectateurs privilégiés, qui étaient les aristocrates, qui les invitaient dans leur château, dans leur demeure, indépendamment des spectacles publics, ils se sont créés des seigneuries fictives. C'est ainsi qu'on a Guillaume de Gilbert, sieur de Mondory, on a Zacharie Jacob, sieur de Montfleury, Charles Chevillier, sieur de Champmélé, Joseph Béjart va s'appeler La Borderie, Jean-Baptiste Poquelin va choisir Molière. Parce que dans les campagnes, il y avait à cette époque-là énormément de lieux dits qui s'appelaient Molière. Dès qu'il y avait une carrière de pierre à meules pour faire les meules des moulins, on appelait ça un ou une Molière. Et c'est la raison pour laquelle il signe Jean-Baptiste Poquelin de Molière ou sieur de Molière, comme ses confrères comédiens.
Quelles sont les pièces ou les œuvres qu'ils mettent en scène? Est-ce qu'ils écrivent ou bien ils adaptent des choses existantes déjà?
Ils font des reprises, bien sûr. Mais surtout, ils ont quelques auteurs qui écrivent spécialement pour eux. Le célèbre Tristan l'Hermite qui leur confie deux pièces. Il y a André Maréchal qui est le garant de Molière parce que Molière, comme il signe, elle était encore mineure, il avait moins de 25 ans. Il avait un garant pour cela. Et il se trouve qu'André Maréchal, c'est un auteur de théâtre qui a eu son heure de gloire dans les années 30, créé encore de belles pièces dans les années 40. Ils vont engager à Pâques 1644 un comédien auteur qui s'appelle Desfontaines qui va leur apporter deux pièces de théâtre. J'ai même calculé que par rapport aux deux autres troupes concurrentes, parce qu'il faut être très gonflé à ce moment-là pour se lancer.
Celles que vous avez citées.
Le Marais et l'Hôtel de Bourgogne. Mmh. Il y avait d'autres troupes de campagne qui avaient essayé de prendre pied à Paris de façon permanente. Et chaque fois, ça avait été des échecs. Et là, on voit ces jeunes qui n'ont pas de passé de comédien.
Ils osent y aller.
Ouais, c'est ça qui est vraiment formidable. Et du coup, c'est tellement surprenant que la légende va forger un passé de comédienne à Madeleine Béjart. Elle n'était pas comédienne nulle part, puisqu'on n'a pas de traces dans les troupes. En revanche, elle était ce qu'on va appeler au XIXe siècle une demi-mondaine. C'est-à-dire que dès l'âge de 14-15 ans, elle fréquentait les milieux mondains. Elle va vivre de façon maritale avec un aristocrate marié dont elle va avoir deux filles. Et elle savait faire des vers. Dès l'âge de 15 ans, elle écrit des vers qui vont être imprimés en tête d'une tragédie de Rotrou. Donc, mais il n'y a aucun d'entre eux n'est comédien. Et ils se lancent. Ils ont le courage de se lancer.
L'illustre théâtre rencontre de très graves difficultés. Elles sont uniquement à chercher du côté des finances, de l'argent ou il y a autre chose?
Encore une fois, le public de théâtre, il est assez étroit à ce moment-là. Donc, il y a vraiment la place que pour deux troupes. Ils se lancent malgré tout. Leur théâtre ouvre le 1er janvier 1944. Chance inouïe, le 15 janvier 1944, le théâtre du Marais brûle. Donc, il va être fermé jusqu'en octobre.
Ils récupèrent le public.
Bien sûr, bien sûr. Eux, ils avaient eu l'intelligence de s'installer sur la rive droite, au bas de la rue de Seine. Et donc, ça marche. Alors, ils ont des dettes parce qu'ils ont dû emprunter, ce qui est normal. Ils ont investi. Ils engagent des musiciens, ils engagent un danseur, etc. Ils payent des auteurs pour leur écrire des pièces. Et leur politique, c'est de fournir plus de pièces nouvelles que le théâtre concurrent. Et là, il n'y en a plus qu'un théâtre concurrent. Mais catastrophe, octobre, le Marais rouvre avec une salle entièrement neuve. C'est-à-dire que l'ancien jeu de pommes, c'est le même plan, mais un peu plus large, un peu plus grand, avec des machines pour faire des effets spéciaux, etc.
Et donc tout là, le monde, ils ne font plus le poids.
Ils ne font plus le poids et on s'aperçoit que le 15 décembre, ils déménagent parce qu'il n'y a plus personne. Et les témoignages de l'époque de leur portier qui leur a prêté de l'argent, qui les accuse de ne pas le payer, dit qu'il y avait tellement peu de spectateurs qu'ils n'arrivaient même pas à rembourser les frais. Et que les seuls argent avec lequel ils vivaient, c'était grâce aux visites. Les visites, dans le jargon des hommes de théâtre du XVIIe siècle, c'est quand on est invité dans un hôtel particulier, dans un palais, etc.
Mais ça ne suffit pas.
Mais non, ça ne suffit pas parce qu'il y a les dettes à rembourser. Ils ont fait aménager un deuxième jeu de pommes. Ils ont dû remettre en état le premier jeu de pommes, parce que c'est inscrit dans le bail. et aménager un deuxième jeu de paume. Donc même s'ils ont transporté les loges, des choses comme ça, du premier au second, ça a été... Et du coup, ils commencent à être étranglés et le public ne vient plus. Même si Madeleine Béjart s'illustre comme actrice tragique, ça suffit pas et c'est la catastrophe. On s'enfonce dans les dettes petit à petit.
C'est donc la catastrophe pour cet illustre théâtre, Georges Forestier, celui que Molière et ses amis ont porté sur les fonts baptismaux, si on peut dire les choses comme ça. Financièrement, ils sont étranglés. Personne ne leur vient en aide.
Alors, le père de Molière va venir en aide à son fils et les familles viennent en aide pour éviter qu'il y ait des prises de corps. Il se trouve que Molière va faire 2 journées de prison. Il y avait quelqu'un qui réclamait l'argent pour les rubans ou les costumes. C'était tellement dérisoire que le lieutenant de police le tire de prison. Mais il y avait quelqu'un qui aurait pu faire quelque chose. C'est Gaston d'Orléans, frère de Louis XIII, lieutenant général du royaume. C'est-à-dire que cet homme qui devient le protecteur de la troupe, et donc la troupe se présente comme la troupe de son Altesse royale, le duc d'Orléans, il ne fait rien. Cet homme, il y avait un océan d'argent qui rentrait, qui sortait, vu sa position et vu qu'il était le deuxième personnage du royaume avec, après le roi qui était mineur à l'époque. Il aurait pu les cautionner, il ne les cautionne même pas, c'est très étrange. Et donc
pour
ils sont obligés de partir.
Ils vont donner des représentations dans différentes régions, provinces
voilà.
de France.
Alors il se trouve qu'à Pâques 46, à l'occasion du grand marché annuel des comédiens, c'est la période des transferts comme on dit aujourd'hui en foot, mais pour les comédiens c'était pareil. La plupart des comédiens se retrouvaient à Paris. Et soit les troupes de campagne se confortaient, engageaient 1 ou 2 acteurs et repartaient, soit ils se constituaient de nouvelles troupes. C'était en permanence un brassage, chaque fois au moment du carême. Et là, ils sont engagés par une troupe qui est la troupe du duc d'Épernon, l'un des très grands personnages du royaume, puisqu'il est gouverneur de l'Aquitaine, enfin de la Guyenne. Pour pouvoir engager Madeleine Béjart, qui s'était fait une belle réputation d'actrice tragique, il engage tout le monde. L'amant, Molière, le frère aîné, Joseph Béjart, qui bégayait un peu, qu'il va falloir bientôt remplacer pour lui permettre de guérir son bégaiement. La jeune sœur, qui est nulle. Il y a la mère, Marie Hervé, veuve, qui part avec le plus jeune de ses fils, qui a 13 ans, Louis Béjart, qui va devenir l'un des membres de la troupe. Et voilà tout ce petit monde qui part donc vers l'ouest de la France. Et puis ils descendent vers la Guyenne, en attendant que le duc d'Épernon, qui attendait que la peste qui sévissait à Bordeaux, son chef-lieu,
se calme.
Eux descendent doucement aussi, en attendant que la peste se calme et qu'ils rendent compte leur protecteur à ce moment-là.
Cet itinéraire-là, il dure plusieurs années ?
Oui. Alors, il se trouve que Gaston d'Orléans, il était lieutenant général du royaume, mais il était gouverneur du Languedoc. Comme il n'y venait jamais, il a même, je crois, jamais mis les pieds, il avait 3 lieutenants généraux, qui étaient 3 grands barons locaux. Il y en a un qui s'appelle le comte d'Aubijou. Il les fait venir de la Guyenne vers le Languedoc pour célébrer son intronisation comme lieutenant général du royaume et comme gouverneur de Montpellier. Et à partir de là, il a l'idée de les faire venir dans les villes qui, chaque année, organisent les états généraux du Languedoc, ce qu'on appelle les états du Languedoc.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire Montpellier, Béziers, Pézenas, Rodez, etc. Donc ça tourne, alors de préférence à Montpellier, parce que c'est la plus grande ville et que là, il y a beaucoup de divertissement. Ils n'aiment pas trop aller à Pézenas parce que, n'en déplaise aux auditeurs qui sont à Pézenas, mais c'est un tout petit bourg qui se réclame de Molière aujourd'hui, mais qui à l'époque,
ne présente pas énormément d'intérêt.
Voilà. Mais justement, c'est la raison pour laquelle les troupes de théâtre étaient sollicitées par les députés qui devaient passer 3 semaines, 1 mois, alors même qu'il y avait une date limite pour la tenue des États qui ne devait pas durer plus d'un mois et demi. Il y a des sessions qui ont duré 6 mois. Et pendant ces 6 mois, il fallait distraire les députés. Et c'est comme ça que, grâce à la protection des lieutenants généraux de Gaston d'Orléans, la troupe, qui était celle du duc d'Épernon, dirigée par un certain Dufresne, qui va être dirigée désormais par Molière, est invitée. C'est un moment de cocagne, comme le dit un témoin, qui est nourri, entretenu par la troupe. Donc, ils reçoivent beaucoup d'argent. Ils ont un public captif, puisque quand ils sont dans la ville, ils distribuent des billets gratuits aux députés, mais en contrepartie, ils ont de grosses subventions. Et puis quand c'est terminé, eh bien là, ils partent. Ils ne vont plus en Guyenne parce que c'est la fronde et que la Guyenne est à feu et à sang. En revanche, ils vont aller progressivement de plus en plus dans la vallée du Rhône.
Jusqu'à Lyon.
Voilà, jusqu'à Lyon. Probablement leur carrefour, c'est Avignon, hein, puisque c'est là que l'un des grands peintres de l'époque, qui s'appelait Nicolas Mignard, peint l'un des 2 portraits de Molière. Celui, on le voit, en costume de César jouant dans une pièce de Corneille qui s'appelle « La mort de Pompée ». Il se trouve que ce Nicolas Mignard, il a, par amour, il partait peindre à Rome, comme son frère Pierre Mignard. Il s'est arrêté par amour pour une belle avignonnaise à Avignon, et son père était propriétaire d'un jeu de pommes. Et c'est dans ce jeu de pommes que la troupe avait fait une sorte de port d'attache. Et donc, à partir de là, elle rayonnait Lyon, Grenoble, et puis Valence, ça fait toutes les petites villes de la vallée du Rhône.
Extrait du film Molière, réalisé par Ariane Mouchkine.
Furent présents en leur personne Germain Clairin, Jean-Baptiste Poquelin, Joseph Béjart, Nicolas Bonenfant.
Chaud la soupe.
Georges Pinel, Madeleine Béjart, Catherine Desurlis et Geneviève Béjart. Lesquels ont fait et accordé volontairement entre eux les articles qui en suivent, sous lesquels ils s'unissent et se lient ensemble pour l'exercice de la comédie, afin de conservation de leurs troupes sous le nom de l'illustre théâtre.
Buvez.
Item. Que les pièces nouvelles de théâtre qui viendront à la troupe seront disposées par les auteurs, sans qu'aucun puisse se plaindre du rôle qui lui sera donné. Sans préjudice de la prérogative que tous les susdits accordent à la dite Madeleine Béjart de choisir le rôle qui lui plaira.
La suite de l'histoire.
Pourquoi parlez-vous de la naissance d'un chef dans votre livre au sujet de cette période, bien sûr en parlant de Molière?
Parce que c'est là qu'on se rend compte que la troupe qui était celle, donc elle était protégée par le duc d'Épernon, mais elle était la troupe de Dufresne, qui était un comédien. Eh bien, on s'aperçoit que Dufresne, on n'en parle quasiment plus à partir des années 50, alors même qu'il est dans la troupe jusqu'en 1659. Alors même que Molière va devenir l'amant ou l'amoureux, on ne sait pas exactement, de la fille de Dufresne, maman Dufresne, mais on s'aperçoit que c'est autour de lui que ça tourne. Et lorsque, en 1653, à la fin de la Fronde, le prince de Conti, petit frère du grand Condé, qui avait tenu Bordeaux au nom des frondeurs contre le pouvoir royal, est obligé de se rendre, se réfugie quelque temps à Pézenas dans son château de la Grange des Prés. Il va vouloir se distraire parce qu'il a une petite cour de 200 personnes, n'est-ce pas? C'est tout modeste. Il faut distraire tout ce monde-là. Il reçoit Daubijoux, le comte Daubijoux, qui est le protecteur officieux de la troupe à ce moment-là. Et du coup, il va devenir le protecteur à son tour officiel de la troupe de Molière. Et on sait que c'est avec Molière, je veux dire, tous les témoignages à ce moment-là parlent de Molière et des rapports privilégiés qu'a eu Molière avec le prince de Conti à ce moment-là.
C'est à ce moment-là aussi qu'il vraiment il se met à écrire.
Voilà, ça correspond. 55-56, ils sont sous la protection du prince de Conti, et c'est en 55 qu'il écrit sa première grande pièce en cinq actes. Mais il est probable, c'est une hypothèse que je fais, parce que elle est fondée sur quoi, cette hypothèse que je fais? Sur le fait qu'il a dû écrire des petites comédies, ce qu'on appelait des farces à l'époque. Hein. Farces sans connotation médiévale, c'est pas des histoires autour du mari cocu, de la femme légère et de l'amant, hein, comme le fameux trio de la farce et des fabliaux du Moyen-Âge. Là, c'est tout ce qui est petite comédie qu'on ne publiait pas, on appelait ça farce. Et il se trouve que lorsque vous avez de nombreuses troupes de campagne qui sillonnent la France et qui arrivent quelquefois dans la même ville, là où il y a une autre troupe, alors qu'elles ont le même répertoire, elles jouent du Corneille, du Rotrou, etc., etc. Comment se distinguer? Eh bien, elles se distinguent en ajoutant un petit spectacle à la grande pièce qu'attendent les gens, et ce petit spectacle, c'est une petite comédie. Donc, de nombreux comédiens, comme les comédiens italiens, ceux, les fameux comédiens dits de la commedia dell'arte, écrivaient des petites pièces comme ça. Et Molière, il a dû commencer, comme ses confrères, à écrire des petites pièces, puisqu'on le sait par le registre de Lagrange, on a des titres. Le médecin volant, la jalousie du barbouillé, le docteur amoureux, on a pas mal de titres de le fagotier, que Molière va transformer en médecin malgré lui ensuite, voilà. Et puis il s'est rendu compte qu'il avait plus de talent que les autres, plus de vista poétique que les autres pour écrire ses petites pièces pour ses compagnons, et c'est là qu'il se lance vraiment dans une grande adaptation d'une comédie italienne qu'il va appeler L'étourdi ou Les contretemps.
Qu'est-ce qui les convainc de revenir à Paris?
Alors, deux choses. D'une part, le prince de Conti, qui avait partagé la même prostituée que le comte Daubijoux quelques mois avant son mariage, attrape la syphilis et voit le vent du boulet de la mort. Et l'obsession du salut devient, dès qu'on est malade, l'obsession du salut. Et il se trouve que Conti se convertit au sens du XVIIe siècle, c'est-à-dire qu'il renonce à tous les plaisirs et, du coup, il renonce au théâtre. Et donc, il défend à la troupe de continuer à porter son nom. Et il incite les États du Languedoc, désormais, lors de leur session, à ne plus attribuer de subventions systématiques, alors même qu'il avait été lui-même, il leur avait attribué des subventions systématiques aux comédiens. Il se trouve que la cocagne de Languedoc s'est terminée. Il se concentre désormais dans la vallée du Rhône, mais à ce moment-là, il commence à réfléchir à revenir à Paris.
Ils se sont forgés une réputation pendant toutes ces années-là.
Oui, grâce au patronage de Conti, même s'il leur interdit de porter son nom, ils continuent à se faire appeler la troupe de Monseigneur, le prince de Conti, ou de son Altesse, etc. Ils ont une très bonne réputation. Ils sont centrés à Lyon. Un auteur de Lyon qui dit que c'est quasiment la troupe de Lyon et qui n'a rien à envier à la grande troupe de l'hôtel de Bourgogne de Paris. Et il se trouve que, comme chaque année, ils participent au grand marché des comédiens pendant le carême. Ils savent qu'en 1657, le théâtre du Marais reste fermé et qu'il y a une salle à louer à Paris. Mmh. Et donc, c'est l'occasion.
La voie
est libre. Mais oui, ceux qui les avaient empêchés de prendre pied, qui avaient trois troupes avec eux, désormais, là, il n'y en a plus qu'une. Donc, avec eux, ça ferait une deuxième troupe. Et c'est la raison pour laquelle ils restent tout l'été de 57 à Dijon. Et moi, je me suis demandé pourquoi. Quand j'ai regardé les recettes, etc., on s'aperçoit qu'ils avaient de très faibles recettes. Tout simplement parce qu'ils attendaient l'occasion de bondir ou non à Paris, au Marais. Et ça va se faire l'année suivante. Été 58, Madame Béjart signe un contrat de location, très cher d'ailleurs, pour la salle du Marais. Ils envisagent de s'installer au moins plusieurs mois à Paris. Et ils ont une chance inouïe, c'est que le jeune frère de Louis XIV, Philippe d'Anjou, qui va devenir Philippe d'Orléans à la mort de Gaston, tienne son rang de frère unique du plus grand roi du monde. Et donc, on va faire comme les princes étrangers. On va lui acheter des choses. On lui achète un château, qui est le château de Saint-Cloud. Il faut qu'il ait aussi, comme les princes les plus importants d'Europe, une troupe de comédiens français. Celle qui a la meilleure réputation et qui va s'installer à Paris, c'est celle de l'ancienne troupe de Conti, la troupe de Molière. Et du coup, elle va devenir la troupe de Monsieur, frère unique du roi.
Voilà donc l'illustre théâtre installé de nouveau à Paris, qui devient en quelque sorte la troupe de Philippe d'Orléans, frère unique du roi Louis XIV, et il advient le miracle des précieuses ridicules. En quoi est-ce que cette pièce de Molière constitue un tournant ?
Alors, Molière a jusqu'ici écrit trois pièces, outre les petites farces, hein, les petites
parliez,
comédies, voilà. Il a écrit trois pièces qui sont L'étourdi ou les contretemps, Le dépit amoureux. Il a écrit une pièce qu'il n'a pas encore fait représenter, mais elle est prête, qui va s'appeler Don Garcia de Navarre, qui va être un échec et qui va paraître posthume après sa mort. Donc il s'installe à Paris, il commence à jouer à Paris en novembre 1658. Il joue avec grand succès les deux premières grandes comédies de Molière, donc L'étourdi et Le dépit amoureux, qui passent pour nouvelles, puisque les Parisiens ne les ont pas vues. Ils font des reprises, évidemment, d'autres pièces, de tragédies, de Corneille, de Rotrou, beaucoup de comédies de Scarron, et de Thomas Corneille, du jeune frère de Corneille. Et il se trouve qu'ils engagent à Pâques 59 deux vieux comédiens, dont un est très célèbre, il s'appelle Jodelet, c'est le grand comédien comique depuis 25 ans. Corneille a écrit des pièces pour lui, Scarron écrit des pièces pour lui, Thomas Corneille écrit des pièces pour lui, Jodelet, c'est pas son vrai nom, c'est Julien Bedeau, dit Jodelet, et donc c'est un farceur à l'origine. Un grand maigre, visage enfariné, qui parle du nez parce qu'il a eu autrefois la petite vérole qui lui a troué le palais, etc., etc. Spécialisé dans les rôles de paysans, de rustres, qui, par les circonstances, est obligé de revêtir un habit d'aristocrate ou le prince, etc. Et évidemment, tout joue sur le rapport entre l'être et le paraître. Et il se trouve que deux comédiens de la troupe de Molière passent au Théâtre du Marais, qui est en train de se rouvrir, et on fait sortir de leur retraite les deux vieux, Jodelet et son frère. On met alors à ce moment-là à outrance les pièces dans lesquelles Jodelet triomphe. Et grâce au registre de Lagrange, on voit que les recettes ne suivent pas. C'est l'engagement de Jodelet, de ce point de vue-là, c'est un échec parce qu'il n'y a pas plus de recettes que quand il joue les autres pièces du répertoire. Et ça veut dire que Jodelet est fatigué. Tout le monde connaît par cœur ses pièces. Et donc, Molière a l'idée géniale de se dire « Bon, je vais écrire une pochade, comme je faisais en province, là, comme ça, pour me distinguer des autres troupes. Je vais écrire une petite pochade. » Il n'avait pas encore l'habitude, à ce moment-là, de placer systématiquement à Paris des petites comédies pour finir la séance. « Je vais écrire une pochade dans laquelle, avec Jodelet déguisé en homme du monde, en petit marquis, etc., etc., et moi-même, je vais me mettre à côté de lui dans le même rôle. » Et il se trouve que venait de sortir, à l'époque, la nouvelle édition d'un livre d'un homme très célèbre à l'époque, romancier, etc., etc., qui s'appelait Charles Sorel, l'auteur du célèbre roman comique, qui s'appelait Les lois de la galanterie. C'est une parodie de la manière dont on se comporte dans les milieux galants lorsqu'on est invité dans les salons, etc. Qu'est-ce qu'on doit faire? Il y a un passage dans lequel il dit, lorsque vous êtes invité dans le salon d'une dame, lorsqu'on vous a invité à entrer et que vous l'aurez profondément salué en avançant et de droite et de gauche, comme on dirait, en vous dandinant, et quand vous aurez invité à prendre siège, vous installer dans un fauteuil, vous sortirez de votre poche un peigne à larges dents et vous affecterez de vous peigner la perruque. Et c'est exactement ce que va faire le valet de Mascarille, devenu marquis de Mascarille, joué par Molière, dans Les Précieuses Ridicules. Et tout d'un coup, le public qui avait l'habitude de voir des jeunes gens qui tombent amoureux de jeunes filles, comme dans Les Fourberies de Scapin de Molière, vous voyez le schéma de la comédie à l'italienne, ou des comédies à l'espagnole, où des grands seigneurs tombent amoureux de jeunes femmes masquées, etc. etc. Et tout d'un coup, qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient sur la scène des personnages, bien sûr, ridiculement attifés, mais qui sont le marquis de Mascarille, le vicomte de Jodelet, qui sont à la mode, mais une mode exagérée, ils ont encore plus de rubans, les canons sont plus larges, les talons des chaussures du marquis de Mascarille sont beaucoup plus hautes, etc. Et les jeunes filles, au lieu d'être les dames galantes qui règnent sur les salons, ils imaginent que ça va être Madelon et Catos, deux jeunes filles arrivées de leur province, qui, nourries des grands romans galants de l'époque, ceux qu'on lisait dans les salons mondains, de Mademoiselle de Scudéry notamment, croient qu'elles vont être séduites par des grands seigneurs qui vont immédiatement venir leur faire une cour merveilleuse. Et du coup, elles rejettent des jeunes bourgeois qui étaient venus leur faire leur cour. Et c'est comme ça que les jeunes bourgeois leur envoient des valets déguisés en marquis galants. Du coup, ça devient donc une parodie des comportements. Et c'est la première fois que les contemporains voyaient ça. Y compris dans les milieux galants, où le sens de l'autodérision était extrême. Et c'est eux qui ont fait le succès.
Et donc c'est un triomphe?
C'est un triomphe absolu. Et il faut savoir que comme c'est une petite pièce en un acte, ce qu'on appelait alors une farce, Molière l'avait prévu pour accompagner une grande pièce. Mais les gens se précipitaient au théâtre, non pas pour voir les cinq actes de tragédie grecque, mais pour voir la dernière partie, parce que c'était en fin de pièce. Et il se trouve que ce qui va aussi révolutionner la chose, c'est que la pièce a un tel succès qu'il y a un libraire, ce qu'on appelait un libraire à l'époque, les libraires étaient libraires-éditeurs, il n'y avait pas d'éditeurs tout court comme aujourd'hui. Un libraire à l'époque envoie des sténographes pour prendre à la volée la pièce de Molière et pour la publier pour son compte. Il paye un auteur inconnu à l'époque qui écrit « Les véritables précieuses ». C'est-à-dire qu'il veut faire un coup double de librairie, publier « Les précieuses ridicules de Molière » et en même temps « Les véritables précieuses » décalquées sur « Les précieuses ridicules de Molière », etc. Et c'est là que les libraires se rendent compte, les autres, qu'il y a un des leurs qui est en train de déposer un privilège pour la pièce de Molière. Et ils s'aperçoivent que Molière, il n'est pas au courant. Et donc ils vont voir Molière en lui disant ça. Et du coup, Molière, il passe un accord avec l'un des libraires qui est venu le prévenir. Et c'est comme ça que pour la première fois, une petite farce en un acte qui normalement destiné à ne pas être publié, est publié. Mmh. Et c'est ainsi que du coup, Molière va publier ensuite, quelques mois plus tard, il va passer à Sganarelle ou Le Cocu Imaginaire, qui va être victime du même tentative de piratage, qui va réussir cette fois-ci. Ce qui n'était rien et qu'on appelait farce va devenir comédie.
Et va se diffuser.
Va se diffuser, et c'est comme ça que Molière, tout naturellement, va en écrire d'autres, des pièces en un acte.
Mais n'admirez-vous pas aussi? Je n'y prenais pas garde. Je n'apercevais pas cela, façon de parler naturelle. Je n'y prenais pas garde, tandis que sans songer à mal, tandis qu'innocemment, sans malice, comme un pauvre mouton, je vous regarde. C'est-à-dire, je m'amuse à vous considérer. Je vous observe, je vous contemple. Votre œil en tapis noir. Que vous semble de ce mot, tapis noir? N'est-il pas bien choisi?
Tout à fait bien!
En cachette, tapis-moi!
Il semble que... Il est toujours sous la protection de Philippe d'Orléans?
Oui, jusqu'en 1665, quand Louis XIV décide que, décidément, son frère a trop de choses, et donc il prend la troupe sous son patronage. Avec une subvention de 6000 livres par an.
Donc ils sont à l'abri du besoin désormais?
Voilà, et c'est comme ça qu'ils vont pouvoir instaurer à leur tour, comme le théâtre de Bourgogne, parce que c'est la troupe du roi, elle s'appelle la troupe royale à l'hôtel de Bourgogne, et eux ils vont s'appeler la troupe du roi. À l'hôtel de Bourgogne, ils ont une subvention annuelle aussi de 12 000 livres, beaucoup plus élevée. Mais c'est ça qui leur permet d'inventer quelque chose qui aujourd'hui nous paraît naturel, mais qui est inventé au XVIIe siècle chez les comédiens. La pension de retraite. Lorsqu'un comédien se retire de la troupe, eh bien, il part avec une pension.
Il se marie. Oui. Mais il faut quand même revenir un petit peu sur cette partie de sa vie qui est importante aussi.
Alors, il se marie avec une jeune femme qui a 21 ans de moins que lui, qui s'appelle Armande Grézède Claire Elisabeth Béjart.
On a entendu parler de Madeleine Béjart.
Voilà, déjà. Alors, il se trouve que Madeleine Béjart, elle a été la maîtresse d'un comte ou baron qui s'appelait Esprit Raymond, comte de Modène, qui avait grandi avec Gaston d'Orléans. Et elle a eu deux filles avec lui. La première meurt, elle est reconnue et elle est baptisée à Saint-Eustache alors que c'est une enfant d'Adultérine. Et il se trouve que la deuxième, qui naît en tournant de 42 et de janvier 43, à ce moment-là, Modène s'était laissé embarquer dans une conjuration contre Richelieu et Louis XIII. Il est en mauvaise posture, il a besoin de la caution financière de sa femme qui s'était retirée dans le Maine. Et donc, la deuxième, on ne la reconnaît pas. Et on va la faire passer quelques
Armande.
Mois plus tard. Elle n'a pas de nom pour l'instant.
Pour
c'est une petite fille qui n'a pas de nom. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est très amusant de voir pourquoi elle n'a pas de nom. Cette petite fille qui n'a pas de nom, on va la faire passer pour la fille de Joseph Béjart, le grand-père, enfin le père, qui est mort depuis un an et demi, et de Marie-Hervé, épouse Béjart, la mère, qui a 49 ans. Mais pour pouvoir donc créer cette fiction, on ne va pas la baptiser, on va attendre qu'elle soit assez grande pour qu'un an de plus, un an de moins, pour qu'on puisse la faire remonter sa date de naissance et qu'elle puisse être effectivement
crédible,
qu'elle soit la fille de Joseph Béjart.
De son grand-père et de sa grand-mère en réalité.
Voilà, voilà. C'est donc la fille de Madeleine Béjart et de Esprit Raymond, comte de Modène. Et elle est baptisée à quel moment ? Probablement, je suis le premier à faire cette hypothèse, mais le seul endroit où, dans une ville, se sont réunies des personnes qui s'appelaient Armand ou Armande, Grézende, Elisabeth, etc., c'est Montpellier au tournant de 53-54. Armand, c'est le prince de Conti, qui est le parrain d'Armande Béjart. Et Grézende, c'est l'une des femmes, c'est la femme d'un des lieutenants généraux qui protégeait la troupe. Elisabeth, c'est le nom de la sœur du comte d'Aubijoux, etc. Et donc, elle est baptisée, en fait, en 54, à l'âge de 10 ans ou 11 ans.
Et donc, là, on la prénomme Armande.
Voilà.
Alors, ceci pose une autre question. Des mauvaises langues ont donc dit que Molière, qui avait été l'amant de Madeleine, aurait épousé Armande, sa propre fille.
Alors, lorsque Molière était en conflit avec les comédiennes de la troupe Riva de l'hôtel de Bourgogne, il s'est moqué d'eux dans une pièce qui s'appelle L'impromptu de Versailles. Il les a imités. Et le gros Montfleury, l'une des deux vedettes de l'hôtel de Bourgogne, a porté un placé au roi dans lequel il accuse Molière d'avoir épousé la fille après avoir autrefois couché avec la mère. On pense qu'il a été accusé par Montfleury d'inceste, mais pas du tout. Au nom du droit canon et de pratiques religieuses, et de la Bible même, ça remonte à la Bible, on ne peut pas épouser le fils ou la fille de quelqu'un avec qui on a vécu de façon charnelle, c'est-à-dire marié ou pas. Et donc, normalement, le pape devrait pouvoir faire casser le mariage de Molière et d'Armande Béjart parce que Molière a effectivement couché avec la mère d'Armande Béjart. C'était tout simple. C'était pour embarrasser Molière. C'était pour obliger Molière à demander au roi une dispense auprès du pape. C'était bon, vraiment bon. Mais il se trouve qu'il y a eu des gens qui ont plaisanté. Ouais, il épouse la fille, c'est sa fille, bien sûr, les comédiens. Il se trouve qu'on a un texte d'un médecin célèbre à l'époque, il s'appelle Guy Patin. Et il avait commencé à écrire un petit recueil de notes. Et dans ce recueil de notes, il parle de Molière, ce célèbre comédien, qui a une femme très jolie, qui est la fille d'une autre comédienne, et peut-être même sa propre fille, parce que ces gens-là n'y regardent pas de si près. Donc on voit comment ce qui a dû être plaisanterie dans certains milieux et chez les comédiens est devenu dans des milieux hostiles au théâtre, quelque chose comme « peut-être, c'est vrai », etc. Et après la mort de Molière, lorsque vont apparaître des pamphlets contre Armande Béjart, c'est là que ça va se déchaîner, on va dire. Elle est la fille de son mari, la femme de son père, etc. etc. Et
ces gens-là n'y regardent pas de si près.
Voilà.
Avec ce que vous avez raconté, Georges Forestier, concernant l'éventualité que Molière ait épousé sa propre fille en épousant Armande Béjart, les ragots, on déduit donc qu'il n'a pas eu que des amis. Il a eu des détracteurs et beaucoup de choses très négatives ont été également dites à son sujet.
Alors, pour plusieurs raisons. D'abord, parce que c'est la première star moderne. Jusqu'alors, les gazettes avaient les yeux fixés sur les grands seigneurs de la cour. Et c'est la première fois que sur un roturier devenu une célébrité, les gazettes ont les yeux fixés sur lui. Donc, il va de succès en succès. Et puis, il va devenir un auteur qui fait la satire des comportements des contemporains.
Et beaucoup se sentent visés.
Exactement. Alors, même s'il n'arrête pas de dire qu'il vise personne en particulier, comme il est sceptique, il fait partie des pyrrhoniens, ce que les adversaires des sceptiques appellent les libertins, il est adulé par un public qui est d'abord le public de la cour et des salons, dans lesquels on pratique une religion qui est celle du plaisir. Louis XIV, c'est pas le Louis XIV des années 80 qui va se convertir, comme on disait au XVIIe siècle, épouser Madame de Maintenon, etc., etc. Louis XIV, c'est le jeune Louis XIV qui a une maîtresse par jour, outre ses grandes maîtresses principales, la Vallière et la Montespan. Et dans les salons parisiens, on débat de beaucoup de choses, de la liberté des femmes, du rôle de la religion. Et il se trouve que depuis le début du siècle, depuis la fin du XVIe siècle, le début du siècle, pour faire pièce au puritanisme protestant, la religion catholique a développé ce qu'on appelle la dévotion. François de Sales a écrit un ouvrage capital qui s'appelle « Introduction à la vie dévote » au début du siècle. Et il y a beaucoup de dévots qui pratiquent une religion qu'on appelle une religion zélée, c'est-à-dire qui font du prosélytisme, qui reprochent leur comportement à certains, qui dénoncent des maris trop complaisants envers leurs femmes. Enfin, il y a eu des scandales. Bon. Et évidemment, les dévots dénoncent le comportement de Louis XIV. Et dans les salons, on discute quelle est la meilleure religion, une religion naturelle ou une religion catholique, mais dépourvue de tout rigorisme dévot, etc. C'est des sujets de discussion. Comme dans ces milieux-là, ces dames qui tiennent les salons promeuvent l'éducation des femmes, l'égalité entre les hommes et les femmes, et du coup, Molière va commencer à faire la satire de ça. Il se sert des modèles de comédie à l'espagnol qui se moquent des maris jaloux, etc. Mais dans l'école des maris, et surtout dans l'école des femmes, il fait la satire de ceux qui considèrent que les femmes sont les inférieures de l'homme et qu'elles doivent leur obéir, et qu'une femme instruite et intelligente va nécessairement tromper son mari.
Donc il se met à dos les dévots.
Voilà, il se met à dos les dévots. La bourgeoisie traditionnelle, qui évidemment...
Qui en prend pour son grade aussi.
Oui, et puis qui est attachée à une conception dominante de l'Église catholique, des rapports entre les hommes et les femmes. Donc, mais il est évidemment porté par les salons, par la cour, etc., qui est son principal public. Parce que ceux qui ont accès, c'est la bourgeoisie marchande qui vend dans les places les moins chères au parterre et qui cherche à imiter leurs principaux clients qui sont la bourgeoisie parlementaire anoblie ou bien l'aristocratie. Et c'est ainsi qu'après l'école des femmes, tout naturellement, appuyé par Louis XIV, qui en a marre que les dévots veuillent lui indiquer la voie à suivre, eh bien, écrit une pièce dans laquelle il va faire la satire d'un des fondements de la vie dévote, qui est le rapport entre un homme pieux et le directeur de conscience qui doit le guider.
Et ça donne ?
Tartuffe.
Votre scrupule est facile à détruire. Vous êtes assuré ici d'un plein secret. Et le mal n'est jamais que dans l'éclat qu'on fait. Le scandale du monde est ce qui fait l'offense. Et ce n'est pas péché que péché rend silence.
Enfin, je vois qu'il faut se résoudre à céder. Qu'il faut que je consente à vous tout accorder. Et qu'à moi de cela, je ne dois point prétendre qu'on puisse être content et qu'on veuille se rendre. Sans doute il est fâcheux d'en venir jusque-là, et c'est bien malgré moi que je franchis cela.
La suite de l'histoire.
La première version du Tartuffe, c'est-à-dire le Tartuffe en trois actes que Molière fait représenter, et que le roi, au lendemain de la représentation, qu'il a applaudi à Versailles, chapitré pendant son ancien précepteur, qui est l'archevêque de Paris, dit à Molière qu'il faut qu'il ne peut pas l'autoriser à la représenter en public, devant son public parisien.
Il faudra donc attendre...
5 ans. Et du coup, entre-temps, Molière va dire « Non, je n'ai pas fait la satire de la dévotion et des dévots, j'ai fait la satire des hypocrites et des faux dévots. » Et c'est ainsi qu'il va transformer sa pièce et que le Tartuffe originel, qui est un véritable directeur de conscience, qu'il a présenté comme les moines du Moyen-Âge, vous savez, qui prie Dieu toute la journée, mais qui aime la bonne chair, qui aime la chair, alors que François de Sales a bien dit, faites attention, parce que comme votre directeur de conscience doit être la voix de Dieu, il faut qu'il soit parfait. S'il se laisse tenter par les passions que des autres hommes, la vaine de gloire, la tentation de la chair, etc., c'est foutu. Et c'est de ça qu'a fait la satire Molière. Et du coup, il transforme son personnage en un hypocrite professionnel, un aventurier dont on découvre un cinquième acte, il rajoute un deuxième acte, et c'est plus exactement la même que celle que Molière a créée.
Que la pièce initiale.
Voilà. Et du coup, bien sûr, il s'attire les foudres des dévots de l'Église, dont certains courants dans la lignée de Richelieu étaient très favorables au théâtre, pourvu que le théâtre soit épuré et instruise, entre guillemets, de façon morale, le public. Et puis, évidemment, en face de ça, il y a tous ceux qui disent que le théâtre empoisonne les âmes, parce que qu'est-ce qu'il devrait enseigner ? Uniquement l'amour de Dieu. Il se trouve que le théâtre, même celui du plus parfait auteur et plus honnête auteur de théâtre qu'est Corneille, qu'est-ce qu'il fait aimer ? Il fait aimer l'amour des hommes. On est ému par les sentiments amoureux des personnages.
Alors, il y a d'autres scandales ? Je pense à Don Juan, notamment.
Alors, mais Don Juan, ça n'a pas été un scandale, en fait. Il a été attaqué par les dévots. Il y a un texte qui paraît qui s'appelle « Observation sur une comédie de Molière intitulée « Le festin de Pierre ». La pièce disparaît de l'affiche après Pâques 1665. Elle a tenu un mois et demi. Elle n'a pas été interdite comme Tartuffe, mais on lui a conseillé vivement de l'étouffer. En gros, en fait, pas du tout. Il se trouve que comme Molière, pour faire face à l'interdiction provisoire de Tartuffe, avait dû, dans l'urgence, concevoir une nouvelle pièce, il a profité du fait que ceux qui partageaient le même théâtre que lui, les Italiens, ils jouaient en alternance un jour sur deux, hein, étaient repartis en Italie pour reprendre leur sujet, une de leurs pièces à succès, qui était le festin de Pierre. Et il en fait son festin de Pierre, et il en fait une pièce à grand spectacle. Et à ce moment-là, le Palais Royal dans lequel il jouait n'était pas très bien aménagé, il y avait des poutres qui étaient encore pourries, etc. Donc il ne pouvait pas avoir de grosses machines, et donc tous les décors devaient coulisser et devaient rester d'un jour sur l'autre sur la scène. Et avec le retour des comédiens italiens à Pâques 1665, ils ne pouvaient plus continuer à jouer. C'était impraticable de garder les grands décors. Et du coup, on retire la pièce de l'affiche. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on a commencé à forger la réputation d'une pièce sulfureuse, dangereuse, etc., etc. C'est comme ça qu'elle a été réécrite 15 ans plus tard par Thomas Corneille et édulcorée.
Georges Forestier, les pièces de théâtre de Molière contribuent à une évolution des mentalités et de la société ? Ou il ne faut pas aller jusque-là ?
Je crois qu'il ne faut pas aller jusque-là. En revanche, il est le témoin de débats.
Il y a un effet miroir.
Voilà, il y a un effet miroir, c'est-à-dire que comme aujourd'hui, les humoristes de notre temps, ce n'est pas eux qui vont nous corriger sur certains points, etc. Il se trouve que pour faire passer sa pièce, Tartuffe, Molière a inventé quelque chose qu'il n'avait jamais dit auparavant, qui est le but de la comédie est de corriger les vices des hommes. Et cette idée de comédie moralisatrice et corrective, qu'il a emprunté à un texte néo-latin du XVIe siècle, en fait, il le fait pour se défendre. Et du coup, mais il n'a jamais écrit ça. Il était en train, au même moment, d'écrire une pièce qui s'appelle Le Misanthrope, qui ne vise pas à corriger les hommes, puisque c'est une satire des comportements dans les salons, etc. Il écrit l'avare pour prouver qu'en fait, bon, puisque l'avarice, depuis la Bible, c'est le pire des mots, c'est celui qui est la source de toutes les autres passions. Mais c'est tout. Et donc, en fait, il s'est donné l'image d'un correcteur des hommes pour faire passer Tartuffe. Mais en fait, qu'est-ce qu'il va développer de plus en plus ? Le bourgeois gentilhomme, le malade imaginaire, on voit bien qu'en fait, il est en train d'inventer une nouvelle forme de grand spectacle qui mêle la musique, la danse et la comédie. Et c'est ça qui l'intéresse, créer un spectacle total qui plaît à la cour, qui plaît à la ville. Il ne va pas plus loin parce qu'il meurt au soir de la quatrième représentation du Malade imaginaire le 17 février 1673.
On va y revenir, mais il y a donc des collaborations aussi avec des musiciens, notamment.
Avec Lully, c'était les deux Baptistes, comme on les appelait, avec Jean-Baptiste Lully. Là encore, c'est un coup de hasard. Dans chaque entracte au XVIIe siècle, puisqu'il y avait un entracte à la fin de chaque acte, un acte qui durait une demi-heure, un entracte. Et dans l'entracte, tous les théâtres avaient 4, 5 ou 6 violons qui jouaient des airs à la mode, que le public n'écoutait quasiment pas. Ils parlaient entre eux, etc., pour commenter ce qu'ils venaient de voir. À la cour, ces entractes musiqués, ça devenait de la véritable... Vraiment, là, il y avait la symphonie qui jouait de façon plus longue. Il y avait de véritables spectacles alternés, comme ça, dans les entractes. Et puis, il y avait un genre qui était le genre royal par excellence, qui était le ballet de cour. C'était un genre théâtral dans lequel le roi et les meilleurs danseurs de sa cour dansaient. Et lorsque le fameux Fouquet, pour l'inauguration de son château de Vaux-le-Vicomte en 1661, a invité le roi, ils ont eu l'idée de faire quelque chose qui était la comédie et les entractes. On a mis les entrées de ballet dans les entractes. Et ça a créé Les Fâcheux. Et c'est à partir de là que la collaboration va se développer avec Lully.
Pour conclure, Molière est-il mort sur scène ou pas ?
Ah, il n'est pas mort sur scène. Il est mort quelques heures après, chez lui, dans la maison qu'il occupait depuis quelques années, rue de Richelieu. Et voilà, il est mort chez lui, au soir de la quatrième représentation. Mais là, vous voyez, quand vous m'avez dit Que peut-on dire de neuf sur Molière aujourd'hui? Eh bien, on s'aperçoit que même la mort de Molière est devenue objet de légende. Parce qu'il est bien plus beau pour un comédien de mourir sur scène, dans la mesure où il meurt le même jour en sortant, que de mourir chez lui. Il a été comédien jusqu'au dernier souffle, c'est ça qu'on peut dire. Et donc, c'est comme ça que les légendes naissent.
Molière est-il un auteur moderne encore aujourd'hui?
C'est un auteur intemporel. C'est pour ça qu'alors même qu'il avait inventé un type de théâtre enraciné dans son temps, tout de suite il devient un classique. Et qui dit classique dit auteur qui peut être représenté à toute période, parce qu'à chaque période il a quelque chose à nous dire et il nous fait toujours autant rire, et c'est ça qui est formidable.
C'est ça le génie?
Ben oui, je crois.
Merci beaucoup Georges Forestier de nous avoir parlé de la vie de Molière, à qui vous consacrez une magnifique biographie parue chez Gallimard. Ça s'appelle Molière, tout simplement. Encore merci.
C'est moi qui vous remercie.